France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui 1871-1873, Rimbaud et Verlaine, une saison en enfer. Ce soir-là, vous entrez au café éclatant, vous demandez des bocs et de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Arthur Rimbaud. Deux mille ans d'histoire. Un jour de septembre 1871, quelques semaines après la Commune de Paris, un adolescent de moins de 17 ans, venu de Charleville, arrive tout seul devant une maison de la butte Montmartre et frappe à la porte de Verlaine. « Venez, chère grande âme, on vous attend », lui avait écrit le poète, qui avait reçu quelques jours plus tôt quelques vers de cet inconnu qui souhaitait le rencontrer. Aucun des deux hommes ne se connaissait, et l'histoire ne dit pas lequel, de Verlaine ou de Rimbaud, a le plus impressionné l'autre. Mais c'était le début d'une des rencontres les plus extraordinaires de l'histoire littéraire, le début d'une saison en enfer qui allait conduire Rimbaud à l'hôpital et Verlaine en prison.
N'existe-t-il pas entre vous et Rimbaud d'autres relations que celles de l'amitié ?
Non, c'est une calomnie.
Les deux médecins déclarent, au vu de l'examen pratiqué, qu'ils sont convaincus que vous vous êtes récemment adonné à la sodomie passive et active. Quel que soit le mot qu'on emploie, le comportement qu'il décrit n'est pas de ceux que nous encourageons à Bruxelles. Paul-Marie Verlaine, la Cour vous déclare coupable de coups et blessures volontaires et vous condamne, en vertu de l'article 399 du Code pénal, à 200 francs d'amende et à 2 ans d'emprisonnement.
Jean-Joseph Julot, bonjour.
Bonjour.
Alors, après avoir eu un succès considérable, je crois, avec votre Histoire de France pour les nuls, vous avez récidivé en publiant aux éditions First une littérature française pour les nuls. Alors, un livre dans lequel vous consacrez plusieurs pages à cette passion très violente qui, en 1873, avait conduit Verlaine en prison parce qu'il avait tiré deux coups de deux balles de revolver sur Rimbaud, dans deux poètes qui, 2 ans plus tôt, ne se connaissaient pas encore. Mais alors qu'il y avait en commun non seulement la même passion, le même talent pour la poésie, mais aussi un passé très chargé, vous le rappelez, qui explique en partie d'ailleurs ce qui s'est passé entre eux.
Oui, les deux ont un passé très chargé. On peut commencer par leur ascendance.
Ils sont très jeunes, hein, ils sont très jeunes pourtant.
Effectivement, hein, ouais. Oui. Verlaine est né en 1844 à Metz et Rimbaud est né à Charleville-Mézières 10 ans plus tard, en 1854. Tous deux ont un passé chargé. On peut remonter dans l'arbre généalogique de chacun et trouver déjà des gens qui ont eu un comportement violent. Pour Verlaine, c'est un grand-père qui était notaire et qui était tellement violent qu'il avait fallu quasiment le faire mettre en prison. Chez Rimbaud, c'est un petit peu la même chose. Donc cette ascendance, cette étude génétique, peut-être les prédisposait eux-mêmes à une certaine violence dans leur caractère. Et puis il y a aussi, ce sont deux fils de militaires, le père de Verlaine et capitaine.
On n'est pas forcément violent quand on est militaire.
Non, mais je veux dire qu'il y a une éducation rigoureuse, peut-être, et qu'ils ont eu des réactions contre cette éducation qu'ils avaient.
Il y a surtout un père absent chez Rimbaud, qui a disparu très tôt avant sa naissance, qui est revenu.
Oui,
chez Verlaine, il y a aussi une tragédie que j'ignorais. C'était la mort de sa cousine, Elisa Moncomble, qui l'a vraiment traumatisé, qui l'a aussi poussé ensuite à se détruire par l'absinthe.
La cousine Elisa, oui, effectivement, c'est une petite fille qui est venue dans le ménage Verlaine, qui n'avait pas pu avoir d'enfant. Paul est né après 12 ans de mariage. Curieusement, Stéphanie Verlaine, la mère de Paul Verlaine, avait fait de fausses couches. Et détail étrange et singulier, c'est qu'elle conservait les fœtus dans des bocaux de formol qui étaient dans une armoire. Et un soir de beuverie, puisque Verlaine s'adonnait beaucoup à l'absinthe, eh bien, il a pris un sabre et il a brisé ces deux vases contenant les fœtus et a dit à sa mère, je veux de l'argent, je m'en fiche, etc. C'est l'une des scènes scènes les plus atroces qu'ont pu vivre Stéphanie Verlaine, et Verlaine lui-même d'ailleurs.
Et c'est que cette cousine, donc, il épouse,
cette cousine, elle
meurt,
oui.
on pense qu'il lui a fait un enfant, enfin, il s'en est jamais remis, il s'est d'ailleurs marié un peu pour oui. oublier tout ça.
Il fantasme beaucoup sur Elisa parce que elle lui laisse
quelques espoirs. C'est la cousine.
Elisa, c'est la cousine. Elle a 7 ou 8 ans de plus que lui, et puis disons que il y a entre eux une histoire d'amour, c'est certain. De toute façon, les poèmes, certains poèmes qu'il écrit sont assez révélateurs. Vous savez que le poème Les coquillages, par exemple, qu'écrit Verlaine et qui se termine par un vers que Victor Hugo avait beaucoup apprécié, Les coquillages, et le dernier surtout de ces coquillages dans la grotte où nous nous aimâmes, le der celui-là me séduisit ou enfin quelque chose comme ça. Et donc, avec Elisa, il y a une histoire d'amour et elle va mourir des suites de couches. Et lorsque Stéphanie Verlaine se rend là-bas, eh bien, elle fait appel, elle dit à Paul de venir parce que la cousine Elisa est au plus mal. Et il arrive et le cercueil sort de la maison d'Elisa. Donc, il apprend d'un seul coup qu'Elisa vient de mourir et puis il va boire pendant 2 jours.
Alors ça, c'est avant la rencontre entre Verlaine et Rimbaud.
Oui, c'est en 1867.
Verlaine est déjà connu, il a déjà publié, Rimbaud l'admire énormément, lui envoie des vers, dit qu'il souhaite le rencontrer, Verlaine accepte, il se donne rendez-vous à Paris, à la gare du Nord, les deux hommes se ratent, puisque Verlaine, ne connaissant pas Rimbaud, eh bien, il ne le trouve pas, et c'est donc tout seul que Rimbaud arrive au domicile de Verlaine, où il rencontre la femme de Verlaine, Mathilde, et sa belle-mère, chez qui habitait Verlaine.
Bonjour. Je cherche Paul Verlaine.
Êtes-vous Monsieur Rimbaud?
Oui.
Monsieur Verlaine n'est pas avec vous?
Non.
Il est allé à la gare vous attendre?
Il ne sait pas quelle tête j'ai, c'est difficile.
Je suis Madame Mottet de Fleurville, la belle-mère de Monsieur Verlaine. Et voici ma fille, Madame Verlaine. Vous êtes encore plus jeune que nous l'imaginions. Quel âge avez-vous?
16 ans.
Vous venez des Ardennes, c'est cela, Monsieur Rimbaud, de Charleville?
C'est ça.
Petite ville charmante, sans doute.
Le cul du monde, sans aucun doute.
Peut-être pourriez-vous nous lire quelque chose après le dîner?
Non, je ne lis jamais mes poèmes.
Tous les autres poètes le font.
Vous ne pensez pas que les poètes peuvent apprendre les uns des autres?
Seulement les mauvais poètes.
Et c'était un extrait du film Éclipse totale d'Agnieszka Holland avec un étonnant Leonardo DiCaprio dans le rôle de Rimbaud. Rimbaud donc qui arrive chez Verlaine en septembre 71. Verlaine n'est pas là, il est allé chercher la gare. Enfin bref, il se retrouve chez Verlaine. Chez Verlaine où Rimbaud arrive un peu comme un chien dans un jeu de quilles, hein, Jean-Joseph Julot.
Oui, il arrive surtout chez les Mottet, chez les beaux-parents de Verlaine qui sont des gens un petit peu rigides, un petit peu embourgeoisés d'une façon empesée et amidonnée. Alors il s'assoit Rimbaud comme un... C'est Mathilde Mottet, l'épouse de Verlaine, qui dira après, ce grand garçon avec une face rougeaude, avec de grandes mains, avec de grands pieds, avec un pantalon trop court, fait l'effet d'une bombe un petit peu dans ce petit milieu où on a ses petites habitudes et surtout son esprit bourgeois. Et au dîner, il ne dit quasiment pas un mot, c'est quelqu'un qui a un peu de l'autiste, vous voyez. Il parle très très peu et toujours les mêmes remarques reviennent quand on lit des gens qui ont connu Rimbaud, il parlait très peu. C'est quelqu'un dans qui le langage quasiment a implosé et c'est cette implosion qui nous est servie dans les poèmes qu'il a écrits ensuite.
Oui, alors il arrive, donc il y a Mathilde, il y a la belle-mère de Verlaine, Mathilde la femme de Verlaine, oui. La belle-mère de Verlaine,
oui.
Il y a aussi sa femme Mathilde qui attend un enfant qui va naître à peine,
oui,
un mois plus tard.
Voilà, il y a Charles
Si,
aussi, hein.
Et s'il y a vraiment quelque chose que bouscule Rimbaud, c'est évidemment que tout de suite, Verlaine se prend d'une véritable passion qui va conduire les deux hommes à l'homosexualité. Dans les bars aussi, dans tous les bars de Paris, Verlaine découche, ne revient plus chez lui. Il passe son temps à boire de l'absinthe, ce qui va le rendre extrêmement violent. Enfin, il l'était déjà, vous l'avez rappelé, mais là, vraiment, à vous lire, par exemple, sa femme, Mathilde, qui attend encore un enfant, non mais c'est un peu après la naissance, il menace de lui brûler les cheveux, il jette son fils nouveau-né contre un mur, c'est hallucinant les violences de Verlaine.
Il menace de lui brûler, oui, de lui brûler les cheveux, il la menace avec un couteau, il la poursuit autour d'une table avec un couteau, c'est effrayant la violence qu'il développe, et qui va d'ailleurs être exacerbée aussi par la présence de Rimbaud, qui lui aussi est quelqu'un de très violent. Attention, parce que ce sont effectivement deux personnages, deux poètes qui fréquentent les cafés, qui boivent beaucoup d'absinthe. Vous savez que l'absinthe a été interdite parce que c'est un alcool extrêmement dangereux. Mais les deux sont deux alcooliques différents. Verlaine, c'est parce qu'il est faible. C'est un faible qui n'a jamais su, il a toujours été entouré de femmes dans son enfance, et il n'a jamais su prendre de vraies décisions. Et Rimbaud, c'est complètement différent, parce que dans la lettre à Paul Demeny, qui est un poète de l'époque avant que comment Rimbaud connaisse Verlaine, il avait écrit « Le poète doit se faire voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. » Qu'est en train de faire Rimbaud? Il est en train de mettre en application sa ligne de conduite. Je veux me faire voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, c'est-à-dire par la pratique quotidienne, régulière de l'alcool. Il y aura aussi le haschich, parce que Rimbaud, un jour, ses amis le retrouvent, viennent fumer du haschich. Il est très déçu, il dit « Ça ne m'a rien apporté, j'ai vu des lunes blanches qui poursuivaient des lunes noires, c'est tout. » Donc il n'en fumera plus, voyez.
Alors il scandalise la famille de Verlaine, il scandalise aussi tous les poètes qu'il rencontre et que lui fait rencontrer Verlaine. Il y a ce club des vilains bonhommes, assez étonnant, où on trouvait les poètes à la mode de l'époque, qui étaient les pharmaciens. Il y a aussi ce qu'on appelait le cercle zutique, tout ce petit Paris littéraire et poétique d'ailleurs, qui tourne autour de Verlaine et qui est choqué par l'arrivée de Rimbaud.
Qui est d'abord séduit, parce qu'on n'a pas de mots suffisamment louanges pour qualifier le bateau ivre, parce que Rimbaud est arrivé avec ce bateau ivre qui a été vraiment une espèce de... Ça a été un séisme dans le monde poétique de l'époque. Comment peut-on écrire de telles choses? Il faut dire que, effectivement, ce poème est peut-être le plus extraordinaire qu'a écrit Rimbaud. D'abord, on est admiratif. Et puis ensuite, quand on voit que Verlaine et Rimbaud commencent à s'afficher, effectivement, ils se prennent par-dessus le cou, ils arrivent débraillés, plein de boue, notamment à une représentation aussi d'une pièce de François Copé. Et donc, on commence à s'inquiéter. Et puis, petit à petit, à cause de sa violence, parce qu'ils arrivent tous les deux souvent ivres, eh bien, on commence à les rejeter. Et puis, il y a une scène horrible, une scène qui va se dérouler. D'ailleurs, lorsque le cercle zutique se réunit, le cercle zutique, ce sont des dissidents, des parnassiens. Enfin, je passe les détails. Et ça se passe chez Dervilly, qui a invité chez lui tous ces braves poètes qui sont là, venus pour s'amuser un peu, pour rigoler. Et puis, il y en a un qui se met à lire un sonnet. C'est un poète, vous voyez, dans le style de l'époque, un petit peu avec col dur, etc. Et il fait il s'appelle Cressel, oui, c'est ça. Et c'est quand même pas mal de s'appeler Cressel pour ce genre de prestation. Et il lit son sonnet, et à ce moment-là, il se passe la chose suivante, c'est que Rimbaud, à chaque vers, va prononcer un mot.
Merci, messieurs. Le poème s'intitule « Verte absinthe ». L'homme est au cabaret à boire son absinthe. Oh, l'absinthe, l'affreux poison, il frappe les petits-enfants, il bat sa femme. Tous pleurent dans son taudis, les ivrognes. Merde. Oh, déchus, n'ont plus de cœur ni d'âme.
Merde.
N'ont plus de cœur ni d'âme. Partout le monde, ils sont mépris.
C'est de la merde authentique. Ivrogne, c'est par ces vers que vous finirez au psychologue.
Moi? Oui, vous, petit morveux malfaisant, sortez ou je vous jette dehors.
Oh, je crois pouvoir me permettre, n'est-ce pas, d'élever quelques objections contre le saccage de la poésie française.
Non, vous ne pouvez pas. Présentez vos excuses et sortez.
Ne m'approchez pas. Et maintenant, à votre tour, l'épiscopie. Allez.
Alors, après cette scène, Jean-Jacques Julot, on se doute bien que Rimbaud est devenu totalement infréquentable pour les poètes. Il est détesté par la famille de Verlaine, qui en a marre aussi de voir Verlaine avec Rimbaud en permanence. Et les deux hommes s'en vont. Enfin, c'est d'abord Rimbaud qui décide de partir à Charleville, de retourner chez lui. Et il entraîne avec lui Verlaine dans une aventure qui va commencer à Charleville, qui va se poursuivre en Belgique et surtout à Londres. Ça, c'est le début, véritablement, d'une longue descente aux enfers qui va durer à peu près un an. Nous sommes là à ce moment-là, je crois, en juillet 1872.
Oui, c'est ça, ils ont franchi la frontière, ils ont décidé de partir. C'est Verlaine qui avait dit, quand Rimbaud était à Charleville, mais quand est-ce qu'on va le faire, ce chemin de croix? Parce qu'il y a quelque chose d'un peu christique, si vous voulez, dans cette démarche, une espèce de calvaire qu'ils ont décidé d'accomplir pour s'accomplir l'un et l'autre, et surtout à la demande de Rimbaud, d'ailleurs, qui est l'homme dans le couple. Hein. Verlaine suit, lui, le plus souvent. Verlaine, c'est celui qui a la bourse aussi, c'est celui qui entretient Rimbaud. Et donc ils s'en vont à Bruxelles. Ils sont discrètement suivis par la police parce que aussi bien du côté de Madame Verlaine, mère et épouse, que du côté de Madame Rimbaud, s'inquiètent du trajet qu'ont pu suivre ces deux-là.
Il y a aussi la police qui n'apprécie pas trop que Verlaine ait joué un rôle pendant la Commune de Paris.
Oui, en fait, son rôle, figurez-vous, il a été très très restreint parce que Verlaine, c'est un timoré, c'est un trouillard, si vous voulez. Pendant toute la Commune, il s'est calfeutré dans sa salle de bain avec des matelas et il a lutiné la bonne parce qu'il avait envoyé sa femme chercher sa mère, sa femme enceinte de 4 mois. Ouais. Il l'avait envoyé sous les balles. Il a dit, non, je ne peux pas. Il avait dit, tiens, je vais en profiter pour faire fricoter avec la linotte, leur bonne.
Bon, enfin, bref, ils s'en vont tous les deux, ils se retrouvent à Londres. Et là, vraiment, leur relation deviennent, au début c'est extraordinaire, et puis elles se dégradent extrêmement vite, ils passent leur temps à s'engueuler, enfin c'est assez pitoyable, c'est terrible ce qui se passe là-bas, c'est vraiment une descente aux enfers.
Oui, alors il y a 3 directions dans leurs activités, ils vont au British Museum, ils lisent, ils prennent une carte de lecteur, ils se cultivent un petit peu. La deuxième, c'est donc la discussion sur leur écriture, c'est-à-dire qu'ils ont de longues discussions passionnées sur la possibilité pour eux de changer la poésie. Ils ont sans doute au fond d'eux un sentiment, le sentiment qu'ils sont en train de faire évoluer les choses. Et puis, ils boivent beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et puis Rimbaud passe son temps à humilier Verlaine jusqu'au jour où, le voyant revenir du marché avec un hareng dans une main et une bouteille d'huile dans l'autre, eh bien Rimbaud se moque de lui, Verlaine fait demi-tour et prend un bateau pour Anvers, tandis que sur le quai de la Tamise, Rimbaud essaye en vain de le retenir.
Paul, ne pars pas! Reviens! Ne me quitte pas! Reviens! Je suis désolé! Qu'est-ce que je vais devenir?
Reviens. Reviens, cher ami. Je te jure que je serai bon. C'était une plaisanterie. Je m'en repens plus qu'on ne peut dire. Quand je te faisais signe de quitter le bateau, pourquoi ne venais-tu pas? Nous avons vécu 2 ans ensemble pour arriver à cette heure-là. Ressonge à ce que tu étais avant de me connaître. N'écoute que ton bon cœur. À toi, toute la vie.
Oh, triste, triste était mon âme à cause d'une femme. Je ne me suis pas consolé.
Triste, triste était mon âme, un poème de Verlaine écrit un an après leur séparation de 1873. Ce qui est extraordinaire, Jean-Joseph Julot, c'est à quel point cette rencontre entre ces deux hommes, leur départ en Belgique, en Angleterre, leur vie pendant 2 ans, a été féconde aussi bien pour l'un que pour l'autre. C'est à ce moment-là qu'ils ont écrit quelques-uns de leurs plus beaux poèmes.
Oui, ils se sont construits à mesure qu'ils élaboraient leur propre ruine. Et les discussions entre eux étaient nombreuses et Verlaine, qui était un faible, avait besoin de Rimbaud pour écrire. C'est lui-même qui le dit lorsqu'il publie Romance sans parole. Il veut le dédier à Arthur Rimbaud. Il dit parce que c'est lui qui m'a poussé à écrire au quotidien. Et dans leur style aussi, on voit une évolution très nette, parce que Rimbaud, qui est plus rude, qui lui cherche la brutalité des images, la brutalité des rencontres entre les mots, et tout cela s'affine à mesure que les discussions entre Verlaine et Rimbaud se prolongent, se déroulent à Londres. Et puis Verlaine, lui, il en reste à cette sympathique douceur qui caractérise sa poésie, mais quand même, il bouscule un petit peu le rythme de l'alexandrin, chose que Rimbaud lui donne demandait de faire, et bouscule l'alexandrin, ne le laisse pas comme ça.
Chez Rimbaud, c'est la chanson de la plus haute tour, en voilà, 72, oisive, jeunesse, oui, a tout asservi, oui, par délicatesse, oui, j'ai perdu ma vie. C'est aussi ce merveilleux vers, aller retrouver quoi, l'éternité, oui, c'est la mer, aller avec le soleil.
Oui. Oui. Un tout petit détail, c'est que il faut savoir que Rimbaud a cherché son père qui était disparu à travers les ouvrages que celui-ci avait écrits. C'était quelqu'un qui était spécialiste de l'islam. Mmh. En Algérie, il avait étudié, si vous voulez, tout ce qui concerne les différentes religions, y compris l'animisme. Et puis Rimbaud cherchait son père à travers ses écrits. Et ce « Elle est retrouvée, quoi l'éternité » est étroitement en rapport avec un livre que son père avait écrit et que Rimbaud avait lu à Charleville.
Mais écrit au moment où il était encore avec Verlaine, période qui était quand même sinistre, parce que après leur retour, leur séparation en juillet 73, ils se retrouvent quelques jours après la lettre authentique qu'on a entendue dans cet extrait de film que Rimbaud envoie à Verlaine. Rimbaud rejoint justement Verlaine à Bruxelles parce que Verlaine a menacé de s'y suicider. Mais alors dès le 10 juillet 1873, quelques jours après l'arrivée de Rimbaud à Bruxelles, eh bien Rimbaud fait à nouveau ses valises et c'est Verlaine cette fois-ci qui tente de l'empêcher de partir.
Qu'est-ce que tu fais?
Mes bagages.
Ne pars pas. Réfléchis.
C'est tout réfléchi.
Comment peux-tu être aussi sans cœur?
Sans cœur? Sans cœur? Tu m'abandonnes à Londres, ensuite tu me fais revenir à Bruxelles où tu veux que je traîne? En attendant que tu décides si oui ou non tu vas quitter ta femme, t'engager dans l'armée ou encore te suicider. Et comme tu n'as pas le courage d'aller une fois jusqu'au bout, comme c'était prévisible, tu voudrais que je retourne à Londres avec toi? Eh bien certainement pas, c'est fini, je te quitte.
Tu peux pas. Tu peux pas. Tu sais que si tu me quittes, tu vas me tuer. Je ne supporterai pas la solitude. Quand je suis seul, je ne suis plus rien.
Pour l'amour du ciel, cesse de geindre.
Je ne te laisserai pas partir, tu sais.
Voilà un numéro tout à fait distrayant et que nous ne connaissions pas encore.
Je vais te tuer. Oh, je t'en supplie, tue-moi. Tue-moi. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait?
Ouvrez la porte.
Et c'était encore un extrait d'Eclipse Totale, très fidèle, d'ailleurs je crois, cette scène que Rimbaud a racontée plus tard à la police, parce qu'il n'a été que blessé. Verlaine est emprisonné, mis en prison, il va y rester 2 ans. C'est vraiment pathétique cette fin, c'est un moment, le moment peut-être le plus connu de leur vie commune.
Oui, cette scène à 2 balles, si on peut dire, c'est Antoine Blondin qui dit... que ces coups de feu claquent comme le plus fameux baiser que 2 amants se soient jamais donné. Oui. Et c'est une très belle phrase. Et effectivement, c'est passé comme ça. Mis à part que leur diction devait être un petit peu plus laborieuse parce que tous deux avaient éclusé et écumé les cafés de Bruxelles jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Et c'est quand même l'effet d'une ivresse colossale, ce coup de feu.
Alors ils se verront plus pendant 2 ans. Ils se verront très brièvement à Stuttgart en 1875 après la sortie de prison de Verlaine. Puis ils vont se séparer définitivement. Rimbaud va écrire encore une saison en enfer, ça je suppose que c'est évidemment inspiré par cette aventure, les illuminations, puis il arrête soudain d'écrire comme ça, au moment où Verlaine sort de prison. C'est extraordinaire cet arrêt brutal de l'écriture, alors que Verlaine lui va continuer, Jean-Joseph Julot.
Oui, c'est une énigme, on a toujours dit que c'était une énigme, mais...
Il a 21 ans.
Il a 21 ans, il veut faire de sa vie une véritable aventure, il veut aller... D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va en Norvège, il s'en va à Java, il s'en va à Chypre, il s'en va comme en Royaume du Shoah, il s'en va à Abyssinie, enfin bref, il veut découvrir de nouveaux horizons, et ce que l'écriture peut-être on ne lui permettait pas, il va le faire avec ses pas. Vous voyez, il va le faire avec dans la distance. Ce qu'il faut dire, c'est que la rencontre à Stuttgart, vous en parliez, Verlaine s'était converti, il a écrit Sagesse, il a retrouvé Dieu en quelque sorte, et il va essayer de convertir Rimbaud. Et Rimbaud dit, je l'ai vu arriver avec un chapelet aux pinces, 2 heures plus tard, nous avions fait saigner les 98 plaies de notre Seigneur. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils ont tellement bu l'après-midi que ça se termine par une bagarre. Et Verlaine est KO. Et Rimbaud laisse Verlaine KO sur le terrain. C'est un paysan qui va récupérer Verlaine et l'emmener pour le soigner. Leurs relations sont très violentes. Ils se battaient au couteau. Ils enveloppaient la lame de couteau, la lame très effilée. Ils laissaient les pointes dépasser. Et puis ils se battaient. Et Verlaine ou Rimbaud ont souvent boitillé à cause de blessures quelquefois graves qu'ils infligeaient.
C'est pathétique un peu cette espèce d'amour extraordinaire entre les deux hommes. Mais au-delà de tout ça, on a l'impression, puisque ça correspondait, nous l'avons dit, à quelques-uns de leurs plus beaux poèmes, que c'était presque nécessaire, hein, comme si au-delà de l'homosexualité, ils avaient eu besoin de cela pour écrire.
Oui, et il y a une espèce de concurrence dans la descente aux enfers. Il se réalise à travers le dépassement des limites, à travers des actions qui sont réprouvées, qui sont odieuses souvent, puisque Verlaine, la plupart du temps, est odieux, Rimbaud aussi. Et là, eh bien, comme il y a aussi un dépassement par le langage, il semble que les cloisons se soient ouvertes de tous les côtés.
Sans faire d'histoire, plutôt de littérature fiction, qu'est-ce qui serait passé s'il n'était pas rencontré?
Alors moi, je pense que Verlaine, petit à petit, se serait éteint. Il aurait, parce qu'il buvait de plus en plus, et puis sa poésie aurait sombré dans une espèce de mièvrerie qu'on lui aurait reproché. Peut-être qu'on n'aurait jamais entendu parler de Verlaine. Si Rimbaud, lui, avait vécu sans rencontrer Verlaine, s'il n'y avait pas eu la guerre de 1870, Rimbaud serait entré à la Normale Sup, évidemment, et peut-être que là, encadré, peut-être qu'on aurait eu affaire à quelqu'un d'extraordinaire dont le génie aurait pu se déployer.
Bon, et ça aurait été un phare. Il s'est déployé à titre posthume.
Oui, certes, mais quand même, il a, comme vous le disiez, arrêté à 21 ans. Et vous rendez compte ce qu'il aurait pu produire jusqu'à 60 ans.
Merci Jean-Joseph Julot. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La littérature française pour les nuls, publié chez First Edition, et un livre à lire, comme également votre Histoire de France pour les nuls, qui a été édité par la même collection, qui est vraiment excellente. À lire également une biographie de Rimbaud, de Claude Jean Collat, publiée chez Flammarion il y a quelques années. Vous avez pu entendre des extraits de Éclipse Totale, un très bon film d'Agnieszka Holland avec Leonardo DiCaprio, David Thewlis et Romane Bollinger dans le rôle de la femme de Verlaine. Ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos, documentation Claire Tesser, Camille Poux-Jalaguier, une réalisation de Anne Comilac.
Thank you.